Europe 1, il est 7h.
Je suis épuisé, mal au dos, mais il faut que je souris. Pour les clientes, c'est notre métier.
La fatigue des salariés au 9e jour de grève, temps de transport rallongé, stress permanent. Témoignage dès le début de ce journal.
Hier, le gouvernement a proposé de nouvelles discussions sur sa réforme des retraites. Les syndicats et le patronat invités à Matignon la semaine prochaine.
Il s'est exprimé il y a près de 2 heures. Boris Johnson remporte largement les législatives au Royaume-Uni. Conservative
government. Le gouvernement conservateur a obtenu un nouveau mandat fort pour mettre en œuvre le Brexit.
Le Brexit va donc être lancé d'ici à la fin janvier. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Ils ont vécu l'incendie de Notre-Dame de l'intérieur. Chef de chantier, ouvrier, patron de l'entreprise d'échafaudage installée sur l'édifice. Et pour la première fois, il témoigne ce matin sur Europe 1.
C'est une journée que j'oublierai jamais. La moindre minute de 7h du matin quand je suis présent sous le chantier jusqu'à 6h le lendemain, je m'en rappellerai par cœur. C'est comme si on me demandait d'oublier la naissance de ma gosse. J'oublierai jamais ça.
S'en sont suivis les soupçons, les auditions, les accusations et désormais l'envie de tout faire pour reconstruire le site. Document exceptionnel à suivre.
7h01 sur Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Qui osera encore dire que la France est un pays de paresseux depuis 9 jours maintenant? Les Français continuent de s'organiser pour pouvoir aller au travail.
Et ce n'est pas rien, surtout en Ile-de-France. Mettre le réveil plus tôt, supporter l'attente dans les bouchons, l'extrême promiscuité dans les transports, une situation qui épuise les salariés, on en parlait avant ce journal, et qui pèse sur l'organisation des entreprises, comme l'a constaté Carole Ferry dans un salon de coiffure parisien.
Nous, on a besoin de nos mains pour travailler. Donc pas de mains, pas de prestations, fatalement, pas de chiffre d'affaires.
C'est pour ça que Fenène Sarfati a conscience de la chance qu'elle a. Le sourire ne quitte jamais ses 30 salariés qui enchaînent brushing et manucure. Pourtant, elle sait dans quel état ils sont. À l'image de Bassel, il a 3h30 de voiture matin et soir pour venir travailler.
Je suis épuisé, mal au dos, mais faut que je souris. Pour les clientes, c'est notre métier.
Rien ne paraît non plus sur le visage de Sabine. C'est une boule au ventre qu'elle a quand elle tente désespérément de rentrer le soir s'occuper de sa fille de 5 ans.
Je suis stressée de peur d'arriver en retard par rapport à la nourrice et de payer les suppléments des heures. Chaque minute, ça coûte des sous.
Et le moral ?
Dans les chaussettes. Je suis fatiguée.
Pourtant, Fenène laisse ses équipes arriver plus tard, partir plus tôt, mais ça reste un casse-tête.
Je charge, on va dire, un peu plus certains qui habitent moins loin, qui ont moins de difficultés. Mais c'est au détriment aussi de la fatigue de ces personnes-là. À un moment donné, à force d'être chargés de travail, ils vont être aussi exténués.
Et ce qui, elle, lui donne le sourire, c'est de voir l'incroyable solidarité qu'il y a entre ses salariés.
Un reportage de Carole Ferry pour Europe 1 et autre source d'inquiétude pour les usagers. Les vacances de Noël, il n'y aura pas de trêve, a prévenu hier la CGT Cheminots. Irresponsable, a répondu la ministre des Transports. Le gouvernement qui, après la présentation de sa réforme, propose désormais de nouvelles négociations pour Europe 1. Jean-Rémy Baudeau.
Édouard Philippe a décroché son téléphone en personne. C'est lui qui a appelé tour à tour les numéros 1 des organisations patronales et syndicales. Il les a invités à des réunions qui se dérouleront à Matignon le plus tôt possible la semaine prochaine, explique un proche du Premier ministre. Comprendre, idéalement avant mardi, le mur du 17 décembre, la manifestation à laquelle tous les syndicats appellent. Le gouvernement qui tend la main pour tenter de désamorcer le conflit. S'il y a des choses à améliorer, on est ouvert, dit-on à Matignon. Et on commence à comprendre quels sont les dossiers qui pourraient être renégociés dans la réforme actuelle des retraites. Une pension minimum, la pénibilité, la gouvernance du nouveau système, l'équilibre budgétaire et surtout l'âge pivot que la CFDT veut supprimer. Laurent Berger, qui fait l'objet de toutes les attentions, l'entourage d'Edouard Philippe pense que le ton du patron de la CFDT est déjà moins virulent. L'exécutif semble prêt à faire des concessions pour le faire revenir de son côté. Un ministre résume l'état d'esprit actuel. C'est une question de vie ou de mort pour le gouvernement.
Pour l'instant, donc, la mobilisation se poursuit dans de nombreux secteurs. Des coupures d'électricité, hier notamment dans une zone commerciale près de Lille. Des ports bloqués au Havre, Marseille ou à La Rochelle.
Et les policiers, eux, ont suspendu leur mouvement, saluant des avancées sur le maintien de leur régime spécifique. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation doit rencontrer les syndicats de profs avant un débat ce soir annoncé aux côtés du Premier ministre avec justement des enseignants.
Europe 1, il est 7h05.
Get Brexit done, c'était son slogan. Et visiblement, Boris Johnson a été entendu par les électeurs britanniques. Les conservateurs emportent la majorité au Parlement.
Et forcément, Boris Johnson s'en félicite.
Le gouvernement conservateur a obtenu un nouveau mandat fort pour mettre en œuvre le Brexit. et pas seulement pour le Brexit, mais pour unir ce pays et le faire avancer. Je veux remercier le peuple britannique qui s'est mobilisé en plein mois de décembre pour une élection historique, qui va nous permettre de respecter enfin le choix démocratique des habitants de ce pays et de libérer tout le potentiel du peuple britannique. C'est ce que nous allons faire. Et le travail commence aujourd'hui. Merci.
Bonjour Nicolas Barret.
Bonjour Marion.
Votre éclairage écho tous les matins. Le travail commence, dit donc Boris Johnson. Et la première étape, hein, ce sera la sortie de l'Union européenne avec près d'un an de retard.
Exactement. Le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne avant le 31 janvier. C'est la grande leçon qu'on peut tirer de ce scrutin. Boris Johnson a les mains libres avec une majorité de plus de 80 sièges, la plus large depuis Margaret Thatcher en 1987. Il va s'empresser d'honorer effectivement cette fameuse promesse de campagne « Get Brexit done ». L'accord de Brexit négocié avec Bruxelles va être soumis au Parlement avant Noël et celui-ci va enfin donner son feu vert. La livre sterling a connu sa plus forte hausse en 3 ans dans les minutes qui ont suivi ce résultat.
Boris Johnson qui devra aussi négocier un accord sur les relations futures avec l'Europe.
Oui, parce que l'accord de Brexit fixe les conditions du divorce. Maintenant, il faut négocier l'accord de voisinage en quelque sorte. Une négociation capitale va s'engager. On va décider de ce qu'on fait pour la pêche, pour les services financiers, l'immigration, etc. Avec une majorité aussi confortable, Boris Johnson va négocier sans la pression des hard Brexiteurs. On peut donc espérer trouver des compromis avec Bruxelles. L'intérêt de tout le monde et des entreprises des deux côtés de la Manche, c'est que cette période ne s'éternise pas. En principe, l'accord doit être conclu avant le 31 décembre de l'année prochaine. Et puis l'autre grand défi de Boris Johnson, c'est de maintenir l'unité du Royaume-Uni. La poussée nationaliste en Écosse est telle qu'un nouveau référendum d'indépendance est possible. Les conservateurs vont réussir le Brexit, mais ils risquent de perdre le Royaume-Uni.
Et la France, en tout cas, se félicite de la clarification apportée par les urnes hier. C'était l'éclairage de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos.
C'était l'éclairage Échos avec Région Job et Paris Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi sur Région Job et Paris Job.
Les élections aussi en Algérie, faible participation, à peine 40% et des incidents en Kabylie. Les résultats ne seront pas connus avant la semaine prochaine.
Europe 1. C'était il y a 8 mois, l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons.
Il raconte la fierté de travailler sur le chantier de Notre-Dame, la dévastation et la culpabilité au moment de l'incendie. La combativité désormais pour reconstruire cet édifice. C'est un document Europe 1 ce matin, des témoignages exceptionnels, des salariés qui ont installé l'échafaudage sur la cathédrale. À tout de suite.
Europe 1, il est 7h09, la suite du journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Ce sont des témoignages exceptionnels que vous allez entendre à présent sur Europe 1, ceux d'un chef de chantier, d'un de ses collègues et de leur patron qui ont vécu l'incendie de Notre-Dame de Paris de l'intérieur.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
L'incendie, c'était il y a 8 mois et jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient jamais accepté de se livrer, mais ils ont fini par vous parler après plusieurs mois d'échange.
Oui, j'ai retrouvé l'équipe d'Europe Échafaudage dans un café au pied de Notre-Dame, là où ils ont leurs habitudes. Faisons un retour en arrière. Le 15 avril dernier, Franck, conducteur de travaux, a quitté le chantier depuis à peine 1 heure quand l'architecte lui demande de revenir d'urgence.
Arrivé derrière les cordons de sécurité, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder l'incendie, quoi. Et quand la flèche s'est effondrée, on m'a ramassé la petite cuillère à côté du parvis parce que moi, je me suis effondré complètement. J'ai dit, ça y est, c'est foutu. C'est au moment où j'entends la police, en fait, qui explique à un de ses collègues comme quoi les pompiers ont du mal à accéder et tout, où là, l'adrénaline prend le dessus. Il faut être actif, on peut aider, on peut faire quelque chose, on peut au moins essayer de sauver ce qui reste à sauver, quoi. J'ai escaladé la grille de Notre-Dame pour pouvoir ouvrir la porte aux pompiers, qu'ils puissent accéder à la sacristie. On a pris le chariot évateur, on a défoncé les grilles pour qu'ils puissent pénétrer avec les camions, qu'ils puissent sortir les œuvres d'art.
On entend l'émotion de cet ouvrier qui travaille sur ce chantier depuis plus d'un an, suivi quelques heures plus tard d'un deuxième coup de massue.
Oui, c'est l'arrivée de la brigade criminelle. Franck, qui a tout tenté pour sauver Notre-Dame, est embarqué par la police pour s'expliquer.
Il date 23h, quand mon patron arrive en fait. Franck, il me dit ça à se corser maintenant, il me dit « Je te présente le commissaire de la police judiciaire ». Et là, ils nous disent « Vous nous suivez, vous partez ». En audition sur le champ. Ah bah moi, à l'instant-là, je pense qu'on me considère comme coupable.
Ça dure combien de temps, cette première nuit d'interrogatoire ?
Elle dure 7 heures, elle fait 23 heures. Je suis sorti de là-bas, il était 6 heures. Je réalise aux 20 heures, c'est quand je vois que le premier titre des journaux, c'est « Les ouvriers pour le moment libérés ». on avait l'impression d'être des criminels. Ça a été la première chose qui a été dite, l'incendie est dû au chantier. Je cherche toujours à savoir ce qui s'est passé. Tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé, j'aurais toujours un sentiment de culpabilité.
Et pendant une semaine, Franck et son équipe seront convoqués plusieurs fois à la brigade criminelle. Face aux enquêteurs, certains ouvriers avouent avoir fumé des cigarettes sur l'échafaudage.
Mais à ce stade, Marion, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, si c'est un mégot mal éteint qui a provoqué le départ de feu ou si c'est un dysfonctionnement électrique.
Non, d'ailleurs, aucun ouvrier n'a été mis en examen, mais ils ont le sentiment d'être désignés comme des coupables. Ils racontent les insultes, les lettres de menace. Même leurs enfants ont été pris à partie à l'école. Leur patron, Didier Cuisé, 54 ans, se souvient d'une scène qui l'a profondément marqué.
Un de nos gars, ses enfants avaient été lynchés, entre guillemets, hein. Ton père, c'est un incendiaire. Et à un moment donné, je le vois sur le chariot élévateur, et puis il était pas bien, quoi. Je lui dis, il y a quelque chose qui va pas, Jérôme et tout. Donc il me parle de ça, et puis il tombe en pleurs dans mes bras. J'avais la chair de poule. Et donc je l'ai arrêté. Et franchement, à un moment donné, j'ai été me foutre derrière un bungalow, et j'ai versé les larmes parce que je pouvais plus me tenir.
Une vie totalement bouleversée, on l'entend. Marion, aujourd'hui, comment ça se passe pour ces ouvriers?
Eh bien, ils sont toujours sur le chantier, hein. Ces ouvriers démontent d'ailleurs, en ce moment, l'échafaudage qu'ils avaient installé, avec, vous l'entendez, encore plus de cœur à l'ouvrage. Jours fériés, week-ends, ils ont tout sacrifié pour ce chantier. Ils sont pas prêts de le lâcher. Écoutez Frédéric.
Tout le monde a demandé à revenir sur ce chantier. Là, ça devient une belle histoire de solidarité entre collègues. Tout le monde est là et tout le monde est présent. Puis on va la sauver, on va la reconstruire. Tous les chantiers sont beaux, hein, qu'ils soient petits ou gigantesques. Mais après, voilà, la cathédrale Notre-Dame, je pense que c'est quand même le Graal.
Aujourd'hui, leur seule obsession, c'est de décrocher le prochain appel d'offres pour conserver à tout prix le chantier de Notre-Dame.
Merci Marion Dubreuil, des témoignages exceptionnels, des voix que l'on n'avait pas entendues hein, ces 8 derniers mois depuis l'incendie de Notre-Dame. Cette enquête signée Marion Dubreuil, vous la retrouvez évidemment sur Europe1.fr. Votre journal se poursuit dans un instant. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'expression « OK Boomer » ? Traduction dans un instant, ou comment on a parfois des clashs entre millennials et baby boomers. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h15, le journal se poursuit. Marion Calais, Mathieu Béliard.
OK Boomer, c'est une expression née sur les réseaux sociaux, utilisée par une jeune députée néo-zélandaise jusque dans l'enceinte du Parlement.
This 52nd Parliament is 49 years old. OK Boomer.
Voilà, 49 ans de moyenne d'âge dans ce Parlement, dit-elle. OK Boomer, cette expression passée dans le langage courant, qui se retrouve même dans un rapport parlementaire rendu hier et décrit comme une discrimination anti-vieux. Alors si vous entendez ces mots et que vous ne les comprenez pas, bien, comment réagir? Rien de mieux pour ça que de demander aux premiers intéressés, aux jeunes qui l'utilisent.
Quelqu'un il va te faire une réflexion, mais une réflexion de vieux, tu vois, du genre « Ah, les jeunes d'aujourd'hui », tu vas dire « OK, boomer », pour faire comprendre qu'on est deux générations différentes.
Vous avez quel âge ?
18 ans. Moi j'ai ça sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en me baladant, en défilant mon fil d'actualité, je suis tombé sur celui.
OK, boomer, OK, boomer, OK, boomer.
Ceux qui commencent à avoir la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, il y a un fossé qui s'est créé en tout cas. Sur le climat, bien sûr. Ouais. Là, j'ai vu, ils ont voté une loi jusqu'en 2030 pour réduire la consommation de plastique. 2040, ouais, on n'a pas 20 ans devant nous encore, je pense, donc il faudrait peut-être accélérer plus.
Bah, on dit OK, boomer, pour dire que cette personne, elle pense un peu vieillot, quoi, pas dans le moderne, vous voyez.
Lorsqu'on sait ce que ça veut dire, eh bien, c'est vexant, quoi.
Non, c'est plus à prendre à la rigolade, c'est plus peut-être une blague.
C'est un petit peu original, mais on sent tout de suite l'expression des jeunes. À chaque époque, il y a eu un langage de jeunes. Et donc, c'est normal, on veut être indépendant. Prenez le pouvoir, écartez les vieux, mais aimez-les quand même. Quand même.
Les compréhensifs,
ouais, c'est ça. Bon sens,
les vexés aussi.
Ça peut être vexant. Alors après, je vois ce rapport parlementaire qui parle de discrimination anti-vieux. Il ne faudrait peut-être pas exagérer non plus. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h avec cette enquête extraordinaire, exceptionnelle que vous avez entendue de Marion Dubreuil avec ses ouvriers du chantier de Notre-Dame de Paris. Sachez-le, dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 demain à 13h, vous prolongerez avec Marion Dubreuil, avec Fabienne Lemoyle, le récit de ces hommes qui se sont retrouvés pris au cœur de l'événement. C'est demain à 13h sur Europe 1, 7h10. 7.